is go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Mais surtout bienvenue dans cette bibliothèque La Passerelle des mots de Quentenay Pinard. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de la géographie de l'Anjou, Quentenay Pinard, c'est à peine à 10 km au nord d'Angers. C'est une petite commune de plus de 2000 habitants, posée sur les bords de la Mayenne. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé sur le terrain et ça me démangeait. Les rencontres que j'avais faites l'été dernier m'avaient fait forte impression et je me suis dit qu'avec ce printemps, reprendre la route était de saison, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Bon, vous allez le découvrir, cette destination n'est pas le fruit du hasard totalement. Il existe un lien entre la bibliothèque La Passerelle des mots, l'émission Entre les pages et Radio G, mais n'allons pas trop vite. Autour de la table des invités qui, chacune et chacun à leur manière, s'impliquent dans la commune, de la motivation, de l'engagement bénévole, de l'ambition et une conscience aiguë de ce qui s'appelle la citoyenneté seront donc au menu de cette émission. Pour faire plus simple, des énergies qui n'ont qu'une seule priorité, faire vivre un territoire. Et aujourd'hui, c'est le monde des livres qui nous réunit. On va commencer cette rencontre avec Anne Prono, qui est la présidente de la bibliothèque La Passerelle des mots. Bonjour Anne.
Bonjour Luc.
On va se tutoyer, ce que je ne fais jamais quand je rencontre des gens en interview, mais exceptionnellement on va pouvoir le faire parce qu'on se connaît bien, on se croise. J'ai eu l'occasion de t'inviter dans l'émission à d'autres moments. Aujourd'hui, c'est moi qui viens sur ton territoire. Tu es présidente de la bibliothèque La Passerelle des mots, mais pas que. Tu es aussi animatrice à Radio G sur une émission, et cette émission s'appelle comment ?
Impromptu littéraire.
Et donc, j'imagine que c'est une émission où on entend des lectures.
Oui, bien sûr.
Mais là, tu es autour de la table parce que tu es présidente de La Passerelle des mots. Tu es présidente depuis combien de temps ?
Disons que j'ai commencé à fréquenter La Passerelle des mots depuis 2015. Hélas, le président, j'étais vice-présidente et le président, hélas, à la suite d'une longue maladie, n'est plus. Et je pense qu'à partir de 2017, j'ai assumé un peu son rôle et que ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est une bibliothèque qui compte à peu près 11 bénévoles et ces 11 bénévoles sont aussi le concours de 5 heures d'une personne déléguée détachée de la mairie. Tu as parlé de plus de 2000 habitants. Quand je vois que nous avons 241 adhérents, je trouve que le ratio est quand même tout à l'honneur de notre passerelle des mots.
Toi, tu es présidente depuis 2015, c'est-à-dire depuis... Tu es vice-présidente, mais tu es impliquée dans la bibliothèque depuis 2015, c'est-à-dire au moment où la bibliothèque s'est installée dans ses locaux.
Exactement.
Est-ce qu'elle existait avant, la bibliothèque ?
Oui, et là on peut faire parler des personnes qui ont fait partie de ce petit cagibi dans lequel on les avait réduits, n'est-ce pas Odile ?
Alors Odile, elle va prendre le micro vert. Donc Odile, on a parlé de cagibi.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bibliothèque dans un cagibi ? Moi je vois beaucoup de boîtes à livres dans des cabines téléphoniques, mais une bibliothèque dans un cagibi, expliquez-moi.
Eh bien imaginez environ 20 mètres, peut-être 25 mètres carrés en deux pièces.
En deux pièces, ah oui.
En deux pièces.
Donc deux chambres à coucher quoi.
Voilà. Donc, mais c'était très sympathique et c'était un très vieux bâtiment, très, très joli, très typique, mais pas du tout adapté pour faire une bibliothèque.
Pour faire une vraie bibliothèque.
Une vraie bibliothèque.
Ça, oui. N'empêche pas, ça n'empêchait pas de faire une vraie bibliothèque.
Ben oui, oui, oui.
Et cette bibliothèque, elle existait depuis quand? Est-ce que vous savez ça?
1980 ou 82, peut-être, dans ces environs-là. Je ne sais plus exactement.
Et donc vous avez vécu le passage du KGB à la grande bibliothèque de Cantenay-Épinard. Ça a dû être un choc, non? Ça a dû être un choc quand, du côté de la mairie, on s'est dit, il nous faut un nouvel équipement dans lequel on y mettra la bibliothèque. Comment vous avez vécu ça, cette période-là?
Eh bien, pouvoir avoir de la place, pouvoir mettre beaucoup plus de livres et accueillir les groupes d'enfants, par exemple, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire. C'était vraiment, vraiment un bonheur, quoi.
Est-ce que vous avez porté auprès de la mairie une idée de nouvelle bibliothèque ou c'est né avec le moment où la mairie a pensé à construire ce pôle culturel, la passerelle?
Je pense plutôt que les personnes, la présidente de la bibliothèque en ce temps-là et toutes les bénévoles qui étaient là bien avant moi, suppliaient la mairie depuis des années de leur donner un autre local. Vraiment, attendait.
Donc le sentiment que vous avez en étant ici aujourd'hui, c'est d'être dans un lieu très grand.
Par rapport à ce qu'on avait avant, ça paraît très grand, mais quand on est en train de ranger les livres sur les étagères, on est toujours à court de place. Donc, voilà.
Et donc la migration s'est faite, 2015 est arrivée. Moi Je suis venu à Cantenay-Épinard à plusieurs reprises. J'ai traversé Cantenay-Épinard à plusieurs reprises et j'ai regardé Cantenay-Épinard à plusieurs reprises quand je marche sur le chemin du Halage de l'autre côté de la Mayenne. Et je voyais cette baie vitrée qu'on voit de la Mayenne et je me demandais toujours qu'est-ce qu'était cette baie vitrée, qui était le riche propriétaire qui pouvait se permettre le luxe d'avoir une maison avec vue sur la Mayenne. Et en fait, j'ai découvert en préparant cette émission que c'est la passerelle. C'est un bâtiment extrêmement contemporain. Ça a été facilement accepté, l'idée d'un bâtiment aussi moderne au pied de l'église?
Certains ne le trouvaient pas forcément très esthétique, ni très assortie à l'architecture environnante.
Il faut savoir qu'avant, ce lieu, c'était une sacristie.
Un presbytère.
Et que, effectivement, ça a choqué certaines personnes, et que nous occupons juste le petit coin de la passerelle. Nous sommes la passerelle des mots, mais la passerelle est beaucoup plus proche des activités de la mairie ou des habitants.
Pour que tout le monde comprenne, la passerelle, c'est le pôle culturel de Cantenay-Épinard. C'est un ensemble dans lequel on retrouve plusieurs types de propositions, mais la passerelle des mots, donc on comprend bien le lien entre la passerelle et la passerelle des mots, la bibliothèque a trouvé sa place dans cet équipement. C'est une bibliothèque. Est-ce que cette bibliothèque est dans le réseau des bibliothèques du Bibliopôle?
Bien sûr.
Oui.
Et donc, il y a une convention qui a été passée entre la mairie et le Bibliopôle, ce qui nous permet d'avoir une subvention qui, permet l'achat des livres, notamment. Et puis, avec l'équipe de bénévoles, on essaie également de développer certaines actions. Et cette année, on s'est efforcé de travailler sur les enjeux du sport.
Pourquoi ça?
Comme ça, il me semble que c'est une année où on parle beaucoup de sport, mais loin de nous l'idée de parler des Jeux Olympiques, mais de parler du sport au quotidien, du sport dans notre commune. Qu'est-ce que ça donne envie de faire, du sport, ou au contraire, ce qu'on n'aime pas faire? Et donc, on a mobilisé plusieurs personnes, comme Patrick Tarot, qui anime des ateliers philo pour parler justement de cette ambiguïté sur le sport. Qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment de rivalité ou au contraire de convivialité? Frédéric Pellerin a pris ensuite la suite pour parler, pour faire un atelier d'écriture.
Pour reprendre, Patrick Tarot, il est dans ce projet sur le sport. Cependant, il anime des ateliers philo, c'est ça, hein?
Oui.
Et entre autres, il anime des ateliers philo pour les enfants.
Exactement.
C'est bien sérieux, ça, faire de la philo avec des enfants?
C'est très sérieux. C'est très sérieux et c'est très important. J'ai eu l'occasion d'aller dans sa classe lorsqu'il faisait intervenir ses élèves qui maîtrisaient absolument tous les éléments. Et c'était extraordinaire, c'était sur l'art. Et bon, comme je pratique la sculpture, j'étais avec une amie et qui, et vraiment, ça a été une expérience extraordinaire. Mmh. Et il est venu également, Patrick, avec, dans notre foire aux livres exceptionnelle que nous avons faite, qui a compté trois auteurs, mmh, avec des livres, donc, sur, bien sûr, la pédagogie qu'il a développée, mais également des livres qu'il a écrits.
Pour faire une biographie assez rapide de Patrick Tarot, qui est impliqué entre autres dans une structure qui s'appelle Sève, mmh, et qui est un réseau national d'intervenants en philosophie, en bien-être, en développement, mmh, personnel. Et donc lui, il intervient ici à la bibliothèque, dans ce cadre-là, et dans le cadre de cette opération autour du sport. Donc, Patrick Tarot, mmh, pour d'un côté, Frédéric Pellerin. Alors Frédéric Pellerin, lui, il intervient sur quoi en fait ?
Un atelier d'écriture.
Atelier d'écriture, toujours sur le sport.
Oui.
Ouais. Il y a aussi, j'ai cru...
Et Margot.
Et il y a Margot Tate.
Qui va sans doute faire une brève apparition.
Oui, j'espère la revoir parce qu'elle a été invitée de l'émission au mois de décembre 2022.
Ah ben là, voilà, je crois d'ailleurs.
Ah, alors si, si Margot arrive, je m'en réjouis par avance. Donc il y a Margot Otta. Alors elle anime quoi? Parce qu'elle, c'est une graphiste.
Dessin.
Atelier dessin, oui. Elle joue dans son camp, quoi, de toute façon. Donc il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est on va dire, cette manifestation sur le sport, c'est le grand thème de cette année.
Voilà. Margot, viens, parce que justement, on parle de toi.
Ben, on va faire une petite place. Ben voilà, on fait une place à Margot qui arrive. Bonjour, bonjour Margot. Enchantée de vous...
Bonjour.
De vous retrouver à nouveau. Je reste émerveillée par les livres que vous aviez présentés au mois de décembre 2022 dans l'émission. Ça m'éblouit.
Merci beaucoup.
Et je faisais encore des recherches autour de vous pour préparer l'émission et je me disais que c'était vraiment impressionnant ce que vous faisiez en fait tout bonnement.
C'est trop gentil, merci.
Comment s'est faite l'implication dans la bibliothèque La Passerelle des mots pour vous ?
Pour moi, c'est surtout grâce à Anne en fait, qui est ma voisine
et qui m'a
qui m'est vraiment proche et qui m'a parlé du coup de La Passerelle. Et le premier événement auquel j'ai participé, c'était il y a 2 ans, je crois, autour du livre jeunesse. Donc une rencontre avec plusieurs personnes qui venaient parler des enjeux du livre. Donc voilà, c'est par ce biais que je suis rentrée dans La Passerelle.
Et donc vous y êtes entrée, mais vous y êtes entrée vraiment de plein pied, c'est-à-dire que vous y êtes impliquée maintenant, enfin vous êtes une actrice de La Passerelle.
Pas vraiment, je participe à quelques événements.
Bah, c'est déjà
beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'impliquer vraiment.
Quand même, hein, Anne vous demande de faire une affiche, vous faites une affiche sur le sport.
Ça reste mon domaine, donc ça va, je peux le faire.
Et c'est une très belle affiche, enfin je trouve que l'option graphique que vous avez retenue pour cette affiche est vraiment passionnante. Enfin, cette réduction du plateau sportif. Enfin, il y a tout un travail autour du plateau sportif et la déclinaison. Et on reconnaît votre style, bien que ce soit vraiment très très géométrique. On reconnaît votre style. Vous avez fait les arts déco à Strasbourg, hein, il y a longtemps.
Oui, mais il y a presque un peu plus de 10 ans.
Et d'ailleurs, il y a un peu plus de 10 ans. Vous écriviez que vous aviez envie de faire concorder des textes et des images. Et c'est toujours pas le cas. Ça, c'est sur votre site. Hein. Moi, je lis votre site.
Oui, c'est vrai.
C'était exactement il y a 10 ans. C'est la fin de votre présentation. Vous, les albums que vous faites, il n'y a pas de texte. Hein. Il y a des personnages étranges. On est obligé de le redire. Les personnages étranges, ils ont pas d'yeux. Hein, ils ont pas ils ont un visage qui est vide en réalité. Hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Ce choix du visage vide comme ça, ça dit quoi ?
C'est surtout que les personnages sont pas forcément incarnés comme des individus précis. Mmh. Et il y a cette idée que ce soit plus des, une sorte d'anonymat, et que surtout j'aime bien le fait que l'histoire, les émotions passent par le corps, parce que le corps, je trouve, dit beaucoup plus finalement que le visage quelquefois. Et donc j'aime bien anonymiser comme ça et faire que on sache pas vraiment quelles émotions transparaissent par le visage, mais qu'on puisse nous se projeter là-dessus, un peu comme un écran vide, quoi.
Mmh. Bah, ce qui est troublant, mais vraiment troublant, c'est que bien que ces personnages n'aient pas de visage, ils sont porteurs d'émotions. Enfin, c'est moi, quand je lis vos albums, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça se fait, mais il y a une force d'émotion qui ressort de ces albums, qui est assez. Ça vient d'où cette ces émotions là que vous aviez que vous arrivez à faire ressortir?
C'est dur comme question.
Oui, je sais.
Je saurais pas trop dire, mais je crois que le fait d'enlever des éléments, c'est presque plus parlant des fois que d'en rajouter. Enfin, j'avais beaucoup travaillé justement pendant mes études sur Raymond Depardon, qui disait que il aimait bien travailler sur des images vides, parce que plus elles étaient vides, plus elles pouvaient être parlantes et être un écran justement pour les émotions. Et donc, je crois que ça aide beaucoup de le fait d'enlever des éléments permet de nous de d'avoir la place en fait en tant que lecteur pour se projeter. Et
c'est la structure de vos graphismes, c'est très simple. C'est des paysages très simples ou des personnages très simples. Et effectivement, il n'y a pas de, ça fourmille pas de détails en fait. Hein, c'est des aplats, des flaques d'eau. Mais effectivement, oui, je commence à comprendre ce qui se passe dans ma tête en regardant vos travaux et d'où vient cette émotion. Alors, moi, je vous ai posé la question sur l'écriture, parce que vous dessinez, votre travail, c'est le graphisme, c'est vraiment votre activité. Vous exprimiez l'envie, le vœu, le souhait de passer au stade de l'écriture. Vous y êtes toujours pas arrivé?
Mais en fait, c'est très étrange, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui naissent surtout par l'écrit, au départ. Et puis qui le dessin va intervenir, et quand le dessin intervient, je me rends compte que l'écrit disparaît. Et ça, pour l'instant, j'ai toujours pas résolu cet enjeu-là, mais j'ai du mal. Mais même moi, en tant que lectrice, je lis très peu de bandes dessinées parce que j'ai du mal à lire en même temps le texte et l'image. C'est un truc qui m'a toujours posé problème. Mmh. Et donc voilà, ouais, j'ai toujours pas résolu cet enjeu, mais j'y travaille.
Et quand vous lisez vos écrits, est-ce que vous pensez que l'image qui vous arrive est finalement beaucoup plus importante que le texte que vous avez écrit?
Oui, je pense que les images qui me viennent sont plus fortes que les mots, en fait.
Donc il
n'y
a aucun remords?
Non.
Hein, y a pas de,
non, j'ai pas de qualité littéraire suffisante pour, pour laisser le texte s'exprimer pour l'instant.
Il y a beaucoup de poésie dans votre travail. Anne est venue vous voir en disant, voilà, on va faire une manifestation autour du sport. Il n'y a rien de plus, à mes yeux, aride finalement que de travailler sur le sport. Comment vous êtes approprié cette proposition pour animer des ateliers?
Je ne suis pas d'accord. Moi, j'adore le sport. Voilà, je suis une grande fan du Tour de France. Voilà, j'ai toujours regardé le sport quand j'étais petite à la télévision. Et je trouve que justement, c'est un énorme vecteur d'émotion, le sport. Et tout le panel des émotions peut se retrouver dans le sport. C'est vraiment fascinant. Les enjeux de la société peuvent s'y retrouver. Il y a des enjeux politiques. Enfin, j'ai l'impression que ça combine un peu tout ce qu'on peut retrouver d'émotions, donc c'est hyper intéressant pour moi le sport.
Donc Anne, qui est assise à côté de vous, va être ravie de se trouver confortée dans le choix du thème
C'est tout à fait ce qu'on voulait. Parce qu'il ne s'agit pas de par rapport au sport, c'est peut-être j'aime le sport ou je hais le sport. Et je pense que les émotions, comme tout à l'heure, on l'a dit, la compétition, au contraire, la coopération, ça joue. Enfin, on a vu ça au niveau de la parole. Quand on a travaillé avec Patrick, c'était évident que les personnes s'exprimaient de façon très contrastée par rapport à ces émotions qui peuvent naître du fait de mettre son corps en mouvement, de rater, de réussir. Enfin, bref.
Donc, Margot, moi je vous remercie d'être passée nous voir, parce que je sais que vous aviez un peu de temps, mais en tout cas, je suis ravi et je suis ravi surtout de vous avoir rencontré à nouveau. J'attends vos prochains albums. En fait, voilà, je suis un inconditionnel, donc j'attends vos prochains albums. Donc, on a parlé de Patrick Tarot, Frédéric Pellerin, Margota. Qui est-ce qui intervient encore dans cette opération autour du sport?
Je crois que c'est tout.
C'est tout.
Hein?
Bon, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoute, Anne, avant de laisser la parole aux bénévoles, si on faisait une pause musicale. D'écouter Revoir le monde, un tout nouveau titre de Michel et les garçons. Vous écoutez toujours Entre les pages et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Retournons à la passerelle des mots, la bibliothèque associative de Cantenay-Épinard. Parole maintenant aux bénévoles. Peut-être l'as-tu déjà dit, la bibliothèque, il y a combien de bénévoles impliqués dans cette bibliothèque?
Alors, il y en a 11, mais nous avons le grand plaisir d'accueillir des nouvelles bénévoles. Et oui. On peut peut-être laisser la parole à quelqu'un, parce que là, alors, il y a déjà quelqu'un qui n'est pas cantonésienne, et on a accueilli une immigrée.
Bon, bonjour, bonjour. Alors Michel.
Bonjour.
Donc vous êtes une personne qui vient d'ailleurs.
Oui, hein? Oui. De très loin, je traverse la Mayenne quand j'y vais.
Bah alors quand on traverse la Mayenne, c'est tout dire. Vous venez d'où?
De Montreuil-Juigné.
Ah oui, mais ça c'est la capitale.
Oui, bien sûr, c'est la grosse ville.
C'est la grosse ville. Qu'est-ce qui fait qu'on habite Montreuil-Juigné et qu'on vient s'investir dans la passerelle des mots?
Alors,
ça vient de quoi, ça?
Il y a deux raisons. La bibliothèque de Montreuil-Juigné est une grande bibliothèque tenue par des professionnels. Donc, n'avait pas besoin d'aide, de participation de personne. Et bon, ça, c'était la première raison qui a fait que j'ai pas trouvé ma place là-bas. Et la deuxième raison, c'est que j'ai rencontré Anne en faisant de la marche nordique. Et la marche nordique, ça fait aussi beaucoup parler. Et donc, voilà, à force de parler de la bibliothèque de Cantenay, je me suis investie dans la bibliothèque de Cantenay.
Vous aviez envie de vous investir dans une bibliothèque?
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de consacrer du temps, non pas à lire, mais à administrer une bibliothèque?
Parce que c'est la rencontre, c'est pas, on n'est pas chez soi dans son canapé juste à lire. Il y a le travail d'équipe, les discussions, la rencontre d'autres gens. Moi, je suis immigrée de beaucoup plus loin.
Hein. Non.
Si. Oh là là là. Je viens du 93, je suis arrivée en 2015 ici, ne connaissant personne, donc j'avais besoin d'un réseau. Et donc, là, c'est l'équipe qui.
Donc, c'était une manière de s'insérer.
C'est une manière de s'insérer. De s'insérer. Tout à fait. Et puis, bon, d'aimer les livres, et puis voilà. Et
donc, vous venez d'utiliser le mot, vous aimez les livres.
Bien sûr.
Vous lisez quoi? Ah, ben si. Quel est le dernier livre que vous avez lu?
Oh là.
Oui, je sais, c'est une
L'horreur.
Question difficile.
Ouais. L'horreur. Oui. Je suis en train de lire le livre de Patrick Tarot et j'ai beaucoup de mal.
Ça ne sera entendu par personne.
Il est très, très fouillis, enfin très,
très ardu.
Féru en histoire.
Oui.
L'histoire de la guerre d'Espagne.
Ah oui.
Et avec beaucoup, surtout l'histoire de la guerre d'Espagne, beaucoup de personnages et j'ai un petit peu de mal. Voilà. Ah.
Donc, vous aimez les livres, vous aviez besoin de socialiser tout bonnement, en fait,
exactement.
Tout bonnement. Anne vous a convaincu que c'était un espace qui n'était pas si mal que ça, la passerelle des mots pour rencontrer d'autres gens. Encore que j'ai l'impression que c'est très féminin. Hein. Bon, et là tout le monde de constater que c'est très féminin.
Peut-être qu'on peut donner la parole à une nouvelle bénévole.
Voilà, une nouvelle bénévole, oui madame. Alors je vois une dame qui se rapproche. Bonjour. Votre prénom?
Morgane Babin.
Bonjour Morgane. Vous êtes nouvelle bénévole. Vous êtes, comment vous êtes venue à la passerelle des mots?
C'est que j'ai été invitée récemment en fait pour une rencontre d'auteurs puisque j'ai écrit un roman en fait. Donc la passerelle m'a invitée. Donc c'est depuis ce moment-là que j'ai mis le pied à la passerelle des mots.
Vous êtes une autrice.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc
toute jeune.
Toute jeune autrice, un premier roman.
Qui s'appelle Le temps fera les choses.
Voilà, une histoire d'une jeune femme qui est en difficulté, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Qui essaie de reconstruire sa vie.
Tout à fait, voilà.
Mais écrire, c'est une chose. Qu'est-ce qui vous a convaincu quand même de venir en tant que bénévole? C'est-à-dire de faire beaucoup plus que d'emprunter des livres, que faire autre chose que d'écrire des livres. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager comme ça?
Pour le moment, je suis pas trop engagée, oui. Très concrètement auprès de la passerelle des mots. Après, en tout cas, j'ai été très bien accueillie en fait lorsque j'ai fait les rencontres dédicaces. Déjà, j'ai apprécié l'invitation et puis la rencontre avec Patrick Tarot aussi.
Décidément, Patrick Tarot, il revient tout le temps. Hein.
Et Antoine, non, il était
Antoine,
pas là.
Antoine Boisseau.
Antoine Boisseau, c'est ça, pardon. Mm-hmm. Donc c'était chouette de partager ça à trois. Et puis c'est là que j'ai rencontré finalement l'équipe de la passerelle des mots et c'était chouette.
Vous êtes prête à donner du temps?
Oui, c'est possible. Ouais. Oui, pour l'instant.
Là, j'essaye de faire le travail d'Anne, parce que je sens bien qu'il faut consolider les choses.
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible.
Eh bien, bienvenue à la bibliothèque, la passerelle des mots.
Merci.
En fait, c'est comme ça que je dois dire, je fais vraiment tout le travail d'Anne, là, réellement.
Alors, pour la petite histoire, oui. On avait préparé un café gourmand. On avait fait trois tables différentes pour que chacun soit indépendant, à l'aise. Ils ont dit, non, on veut être tous les trois les uns à côté des autres, on va accueillir comme ça sera mieux.
Mais voilà, c'était un chouette événement. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Oui. Enfin, une trentaine de personnes est passée.
30 donc, personnes.
Oui, c'est ça. Oui. Donc c'était chouette pour la bibliothèque, en fait.
Merci. Je me retourne vers Madame Ricoux, Frédéric Ricoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes deuxième adjointe.
Oui.
Quand même, hein.
Deuxième mandat.
deuxième mandat. C'est important parce que c'était la question que j'allais vous poser et vous allez comprendre pourquoi. Oui. Vous êtes adjointe aux affaires scolaires, périscolaires, à la petite enfance, au commerce, à l'artisanat, à la vie associative et sportive. Ouh, eh bien,
Beaucoup de travail.
Oui, que d'attributions.
Oui, mais je suis une jeune retraitée, donc je vais avoir un peu plus de temps. Et voilà, non, mais ça se passe plutôt bien dans l'ensemble.
Quelle est votre relation à la bibliothèque, la passerelle des mots?
Alors, on va
la donner à deux niveaux.
Oui.
Au niveau individuel, vous,
oui.
Et puis au niveau de votre mandat d'élu.
Tout à fait. Alors, en tant qu'élu,
oui.
Moi, je suis très sensible à la vie associative sur Cantenay, parce que voilà, Cantenay est quand même doté de 38 associations sportives, culturelles. Mm-hmm. La passerelle, le bâtiment a été construit en 2014.
2015.
Voilà.
Mes notes sont justes, voilà, c'est écrit 2015.
C'était un projet, si vous voulez, de l'équipe municipale. Avant qu'on arrive.
Mais c'est vous qui l'avez continué.
Mais voilà, on l'a continué. Mmh. Et bon, j'essaye d'être assez présente. Je ne peux pas toujours, j'essaye d'être assez présente quand il y a des réunions, les assemblées générales. Quentin nous fait des demandes. Voilà, je suis sur le terrain, sensiblement, et j'essaye d'influencer certaines décisions qui ne sont pas toujours prises en compte.
Donc, oui.
Mon rôle, je soutiens. Je soutiens énormément les associations. Je suis issue de sport parce que j'ai fait 20 ans présidente de basket. Donc, mais de toute façon, voilà, on sait que les associations à Cantenay vivent. Elles vivent bien. Elles attirent un public nombreux. Et notre rôle en tant que municipalité, c'est de soutenir nos associations. Et ça, c'est important.
Moi, il y avait une question que je me posais. Ce bâtiment, le pôle culturel, qui est un bâtiment extrêmement contemporain, vraiment, que moi je trouve très beau, mais peut-être parce que je suis trop jeune. Est-ce que ça a été difficile de faire passer l'idée de cet ensemble-là dans la population ?
Alors oui, il y a eu quand même beaucoup de remarques quand ce bâtiment est sorti de terre.
Oui.
Mais en fait, après, on a trouvé qu'il se noyait très bien dans le décor. Et finalement, on n'a que des bons retours. Alors, il y a, pas sans souci un petit peu quand même avec le toit végétalisé, mais ça a l'air de se régler. Voilà.
Ça, c'est des innovations d'architectes.
Voilà.
On se demande ce qui leur passe par la tête.
Voilà. Mais après, avec tout l'aménagement qui a été fait autour des bords de Mayenne, enfin voilà, les gens se retrouvent très bien quand ils vont dans les bords de Mayenne. Ils viennent souvent par la passerelle, ils passent par derrière, et en fait, je trouve que c'est voilà, il y a un cheminement qui se fait qui est sympathique. Voilà.
C'était un gros budget pour la commune.
Oui,
c'est
un budget considérable. Bon, après, notre but, c'est, on n'avait pas de salle culturelle. Bibliothèque était dans les locaux.
Dans un cagibi.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc là, évidemment, là aujourd'hui, peut-être que Anne trouve que c'est pas assez grand, mais par rapport à avant, c'est
luxueux.
C'est luxueux.
Oui.
Voilà. Mais bon, on sait bien qu'il y a encore des petits aménagements à faire. Voilà. Mm-hmm. Et puis, notre salle à côté, qui pour nous ne vit pas assez dans la culture même, parce que
c'est une salle polyvalente.
C'est une salle polyvalente aujourd'hui qui sert aux écoles, qui sert à faire du sport, mais après. La bibliothèque, la passerelle des mots organise des événements et c'est bien. Et après, on attend que d'autres associations aussi organisent des événements plus culturels.
Mmh.
Juste ajouter, c'est que nous avons été associés à l'achat et au choix du mobilier. Et je pense que tout le monde a apprécié.
D'être impliqué dans la mise en œuvre réelle, quoi.
Oui, oui. Ouais. Je pense que ça a été très positif pour que les personnes qui étaient déjà dans l'autre bibliothèque, dont je ne qualifierais pas la surface.
Oui, mais on a dit deux chambres à coucher.
Donc, ça a été très, très apprécié. Mmh. Puis c'est vraiment très beau comme matériel, mis à part petites étagères qui seraient bienvenues.
C'est en cours.
Quelles sont les grandes manifestations de Cantenay-Épinard?
Les grands événements. Alors, les grands événements, ça va pas tarder à démarrer. Là, on commence par le Trail des Ragondins, qui est un trail, sportif, qui se passe à côté, dans les bords de Mayenne. Les grands événements.
Et donc, c'est combien de kilomètres ce trail?
Alors, il y a trois parcours.
Oui.
Il y a 8, 9, je crois, 17, ça change, et un 30, 33 ou 34.
Ils ont fait une année 70, mais ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué à organiser.
Quoi, ils sont allés à Laval, ils sont revenus, quoi.
Ouais, à peine, mais voilà. Donc ça, c'est le grand événement de la commune, parce que évidemment, ça, c'est un peu national, ça vient de partout. Et il y a 1200 participants, avec 200 bénévoles.
Voilà, on ça retrouve. Fait 6 fois la population de
voilà. sur une journée.
Voilà.
Ça, c'est le gros événement. Après, on a La Vie est une fête, qui est le premier week-end de juillet. Mm-hmm. Alors, La Vie est une fête, là, ils ont fait 3 années consécutives. Ils font une petite pause avec la Bringue. C'est le Famille Rurale qui organise. Pareil, ça va chercher beaucoup de bénévoles. Ce qui est important de comprendre sur Cantenay, on est un village quand même de 2460 habitants, mais les gens s'implique énormément dans chaque gros événement. Mmh. Quand on voit au trail, il y a 200 bénévoles, alors que la Trace, ça regroupe, l'association de la Trace, c'est 10 personnes. Hein,
oui. Donc
voilà,
gens,
tout le village participe.
Le village s'implique dans la...
La vie est une fête, la c'est la même chose. Mmh. Après, on a un nouvel événement qui est en troisième année du festival, Bassine-Vallée.
Oui, le festival de rock.
Voilà, au mois de septembre. Ouais, ouais. Au mois de septembre. Voilà. Donc là, même chose, hein, c'est un gros événement et ça fonctionne bien.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et puis après, on a des événements ponctuels sur les associations où il y a des challenges Nicole Lancien, c'est-à-dire avec le foyer médicalisé ici, mm-hmm. Vous voyez, sur Cantenay, avec un tournoi d'handicapés. Voilà, après il y a un tas d'événements sportifs qui
j'imagine, mais il y a quand même des grands rendez-vous.
Voilà, il y a des grands rendez-vous.
Il y a des grands rendez-vous, oui. Le trail,
La vie est une fête.
La vie est une fête, et puis ce festival tous les deux ans.
Non, tous les ans. Tous les ans, ça fait 3 ans, c'est leur troisième année.
C'est leur troisième année.
C'est tous les ans.
Tous les ans. Bien. Et se déroule où vous faites ce festival? Je suis curieux
là,
de savoir.
Alors. Oui. En face, les bords de Mayenne, oui. auprès de l'Abbesse.
D'accord, je vois.
Vous voyez?
Très bien. Eh bien, écoutez, Madame Frédérique Ricou, je vous remercie.
De rien. Merci. Merci à Anne, de m'avoir invitée.
Ben non, mais c'est important. C'est important quand on est dans une commune, d'entendre toutes les voix. C'est ce que je disais en introduction. Une commune, c'est des synergies d'énergie. Et ce sont des voix multiples, des engagements. Tous bénévoles, et c'est important de le noter. Et donc, je crois que le but de l'émission, il est aussi de faire entendre des voix qui permettent à des lieux comme la bibliothèque, la passerelle des mots, d'exister. C'est aussi simple que ça. Donc moi, vraiment, je vous remercie d'être venu nous voir. Voilà. Et je souhaite longue vie à la passerelle des mots, bien entendu.
Merci.
Romain Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de Cantenay-Épinard.
Oui, je suis natif d'Angers, on va dire, je me suis installé, je suis nouveau cantonésien depuis quelques années.
Depuis quelques années, mais dans votre vie professionnelle, vous êtes bien connu des lecteurs, parce que oui. Vous êtes sur un segment tellement particulier, hein. C'est vous qui êtes responsable du magasin Azumanga.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous êtes néo-cantonésien.
Néo-cantonésien, ouais.
C'est ça, c'est ce qu'on doit dire. Qu'est-ce qui fait que là, pour vous, vous êtes venu résider à Cantenay-Épinard? Qu'est-ce qui fait qu'on s'investit dans une bibliothèque alors qu'on a déjà une vie professionnelle bien chargée, bien occupée? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve du temps pour le donner aussi au monde associatif?
Alors, on pourrait parler pendant des heures de ça. Hein.
Oui.
Mais
j'ai pas des heures. Hein.
La vie de libraire, c'est la vie de médiation. Quand on est un libraire investi, on vend pas des chaussures, on vend de la culture. Mm-hmm. Et la culture, c'est la médiation. Mm-hmm. Et en fait, moi, j'ai créé ma librairie en 2010. Et dès le début, en fait, j'ai voulu faire de la médiation, surtout que je suis dans un secteur qui a besoin de médiation.
Le manga a besoin de médiation?
Le manga a besoin d'être reconnu pour sa valeur culturelle, encore aujourd'hui.
C'est quand même l'objet livre le plus vendu en France. Enfin, c'est le segment le plus vendu.
Tout à fait. Oui. Mais comme la BD à son époque, le manga souffre d'a priori.
Bah oui, il faut lire à l'envers. Vous parlez d'une idée.
Entre autres. Mais en fait, si vous voulez, quand j'ai créé en 2010 les librairies, j'ai commencé à travailler avec les bibliothèques et c'est moi qui les ai contactés. C'est pas eux qui sont venus forcément vers moi.
Ah oui.
Sauf la bibliothèque municipale d'Angers qui a voulu absolument travailler avec moi. Et après, en fait, j'ai fait des actions en fait auprès des bibliothèques et auprès des établissements scolaires. Et ça, je l'ai toujours. Enfin, ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. Et étant cantonésien,
il n'y avait pas le choix.
Je me suis dit, mince, la bibliothèque, moi j'ai sûrement un rôle à jouer dans la bibliothèque où j'habite. Et pour moi, c'était important en fait, que je puisse être investi parce que en fait, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'ai une certaine valeur, on va dire, culturelle et sur le comment dire, le milieu angevin, pourquoi j'irais faire des présentations sur le manga à Angers Sud et pourquoi j'en fais pas à Angers Nord? Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'essaie de m'investir. Et c'est pour ça que j'ai contacté Anne, entre autres, et l'équipe de La Passerelle. Pour essayer de faire une action et non rémunérée, enfin je veux dire, voilà, c'est
oui, vous êtes impliqué, investi bénévolement,
voilà, pour moi c'était important.
Alors faut vous dire une chose, je vais vous dire une chose et ça va très certainement vous faire plaisir. C'est quand on est entré dans la bibliothèque tout à l'heure, j'étais accompagné de Anne et elle m'a montré le rayon manga et elle m'a dit, ça c'est le secteur de Romain.
Oui.
Donc voilà, c'est quand même, c'est pas rien.
Je pense qu'on a depuis le début là, on essaie d'avoir une relation de confiance et essayer de faire les choses intelligemment. Et alors bien sûr, moi je le fais à côté de mon métier, donc
ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez un métier qui vous prend du temps déjà.
Oui, un peu, ouais. mais du coup, j'essaie de mettre en place des choses. Mmh. Ouais. Enfin, on essaye de mettre en place des choses.
Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question qui tue. Ce n'est pas possible. En dehors de One Piece, si vous deviez me recommander un manga, ce serait quoi?
Qu'est-ce que vous lisez?
Je lis tout.
Mais après, encore une fois,
peu importe ce que
vous lisez.
Je lis tout, moi.
Un de mes gros chouchous, c'est un manga qui s'appelle Undercurrent.
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 Je note.
Aux éditions Cana, qui est un très beau titre.
Eh bien, j'irai voir ça. Je vous remercie, Romain, d'être venu.
Je vous en prie.
D'être venu reprendre un peu de temps.
Pas de souci, c'était avec plaisir.
Je vous remercie et je me retourne vers Bruno. Bruno Jouette Pastré, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon. Et vous êtes conteur?
Oui, je suis conteur, oui.
Rassurez-moi.
J'essaye.
Vous êtes de Cantenay-Épinard?
Non, pas du tout.
Décidément.
Mais j'habite à Cantenay-Épinard, oui, quand même.
Oui, vous n'êtes pas originaire d'eux, mais
non,
vous habitez ici.
Non, oui.
Vous êtes conteur et votre implication dans la bibliothèque La Passerelle des mots, elle se fait comment?
Elle se fait en essayant d'animer des ateliers contes avec des conteurs qui sont intéressés par le conte et qui ont envie de participer à des racontés qui se font sur Cantenay-Épinard et en particulier notre raconté de fin d'année qui a lieu tous les 2 ans.
Alors ça, moi j'aimerais bien que vous m'en parliez, cette affaire les contes de l'avant des contes.
Oui, ça s'appelle. Alors
au début,
c'était ça. Voilà, c'est l'idée de départ, c'est un calendrier de l'avant des contes. Voilà. On va chez quelqu'un, on ouvre une fenêtre. Sous la fenêtre, il y a des gens qui sont là pour écouter un conte. On leur dit un conte, on referme la fenêtre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et on recommence le lendemain parce que c'est l'avant, c'est du 1er décembre ou même des fois un petit peu avant,
hein, oui.
Quelques suivant les années.
Oui.
Voilà, donc cette idée, voilà, je l'ai eue en tête et je suis venu la proposer à la bibliothèque. Donc c'était en 2015, donc c'était tout au début de la passerelle des mots.
Et ça a pris. Et ça a lieu tous les deux ans.
Voilà, ça a lieu tous les deux ans maintenant.
Oui.
Ça a commencé en 2016, mais maintenant ça tombe les années impaires, oui, parce que avant de reprendre, on a mis 3 ans.
Donc les années impaires, une fois tous les jours, c'est faut y aller, hein.
Voilà. Alors les compteurs acceptent de compter tous les jours,
oui,
du 1er décembre au 20, 21, 22, ça dépend des années. Sauf les week-ends, on compte pas le samedi ni le dimanche. Mais n'empêche que 5 jours dans la semaine, on va chez des cantonésiens ou sur des lieux associatifs. Cette année, on a inauguré une soirée, enfin pas cette année, puisque c'était en 2023, mais on a inauguré une soirée à l'Épinard Solidaire, qui est une association assez récente, un magasin gratuit.
Un magasin gratuit.
Voilà, c'est juste presque en face de la bibliothèque, un petit peu plus haut. Et
ça consiste en quoi, cet Épinard Solidaire?
C'est une sorte de magasin du gratuit, c'est-à-dire les gens apportent,
les gens donnent des choses
et peuvent repartir avec des choses. Mais c'est pas du troc. On peut venir sans rien et repartir quand même avec quelque chose. Et c'est ce qui est donné doit être voilà, c'est pas une déchetterie, c'est pas une recyclerie, ça doit être vraiment en état.
La solidarité mise en œuvre.
Et ça fonctionne bien. Et on a fait donc une soirée. Dans le jardin, parce que ça se passe dans un jardin qui est tout près d'ici.
Les comptes, c'est venu quand avec chez vous?
Les comptes chez moi, c'est venu. C'est très ancien parce que je suis un très mauvais lecteur.
Mais ancien comme quoi? 10 ans, 15 ans, 50 ans?
Non, mais ça remonte à mon enfance.
Ah oui.
J'étais un très mauvais lecteur, donc il me fallait des textes, des histoires courtes. Donc j'ai lu beaucoup de contes.
Maintenant vous êtes conteur, donc c'est plus la même chose.
Je suis arrivé en Anjou, et là j'ai eu l'occasion de rencontrer des conteurs et...
Parce qu'il semble qu'à Angers, il y ait eu un nid de conteurs, enfin il y a eu une activité de conte vraiment importante, hein.
Alors, il y a eu dans les années, on va dire la fin des années 80, où une petite bande de conteurs amateurs, de gens qui aimaient les contes et qui aimaient en raconter, des gens qui avaient des enfants et qui aimaient aller raconter des contes dans les classes de leurs enfants. Et on a créé une association qui s'appelait les Conteurs Bleus. Et on avait commencé par avoir une soirée mensuelle où les gens pouvaient dire des contes autour d'un sac à contes. C'est-à-dire, le principe, c'était à l'époque qu'on faisait payer les gens, tu payes ou tu comptes. Voilà. Donc, on devait payer peut-être deux francs à l'époque, hein, c'était
donc
le siècle dernier.
Il y a des générations qui peuvent pas comprendre. Les compteurs bleus, ils peuvent pas comprendre. Deux francs, ils peuvent pas comprendre non plus.
Maintenant, on a Linky.
Et puis, vous en avez fait une de vos activités. Vous avez été conteur professionnel?
Oui, j'ai été conteur professionnel parce que je suis venu à Angers pour travailler. Je suis arrivé à Angers en 71 pour travailler chez Bull. Et puis un jour, j'en suis parti et je suis devenu conteur professionnel.
Ben voilà. La vie et les raccourcis de la vie.
Ouais.
Moi, je vous remercie, Bruno Jouette Pastré. Je fais vraiment l'effort de dire tout le nom.
Merci.
Je vous remercie, Bruno, d'être venu. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu pour ce moment. Je vais remercier donc les personnes Bruno, Romain, Anne. Morgane,
Odile,
Madame Ricou qui est partie mais qui est venue pour cette émission. J'ai tous vous remercier. Dans les bénévoles qui sont présents, Françoise et puis Manuela.
Nouvelle bénévole.
Nouvelle bénévole. Donc il y a beaucoup de, en fait, Anne, il y a beaucoup de nouveaux bénévoles, hein, en réalité.
Ben, c'est une année faste.
C'est une année faste, hein.
Il y a eu une pépinière.
Il y a eu un nid, une efflorescence, c'est le printemps. C'est ça. Le printemps des bénévoles.
Oui.
Moi, je vais te remercier, Anne, pour l'invitation que tu m'as faite et merci à toutes et à tous pour votre présence.
T'es pas serré dans mes bras.
Avoir le temps
de respirer. Ce soir, on prend le temps de se raconter nos passions, nos belles histoires. On s'aime tout le temps, mais le temps nous manque. On a choisi nos rêves au virage incessant. Mais je ne les imagine jamais, jamais, jamais sans toi. Je vais rentrer ce soir. Poser mes mots sur une feuille blanche, réfléchir à leur sens. Je me suis toujours dit, va bout de tes idées, peu importe si les autres frappent à ta porte. Je me suis toujours dit, va bout de tes idées. Bonsoir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas serré dans.
Encore un artiste de l'Anjou qui chantait avec Babette, la violoniste de Dionysos. Ils interprétaient Bonsoir, c'est toujours entre les pages et c'est toujours sur Radio G. Et si on se mettait western en écoutant la chronique de Julien ?
Pour une poignée de western. Howdy Luc. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à un roman western jeunesse. Enfin, quand je dis jeunesse, je veux dire qu'il peut se lire à partir de 13 ans et qu'un adulte peut s'y plonger sans crainte d'affronter un de ces romans lavasses estampillés young adult qui, eux, bien souvent, confortent le lecteur dans ses pénates adolescentes sans rien proposer de transcendant. Avec « Sans foi ni loi » de Marion Brunet, on est à l'exact opposé de la littérature young adult, vous l'aurez compris, avec une épopée western qui transcende le lecteur en lui proposant ce qui se fait de mieux en littérature, c'est-à-dire une possibilité de découvrir une histoire à strates. Par strate, j'entends bien évidemment que si l'on relit cette aventure au gré de notre maturité de lecteur, on découvrira d'autres pistes, d'autres compréhensions possibles. Et avoue-le, Luc, c'est quand même pas mal du tout. Alors, pour être complet, je rajouterai que Marion Brunet jouit d'un sacré succès d'estime en fiction adulte cette fois-ci. Succès absolument pas immérité et que vous pouvez vous précipiter sur Vanda, un roman social sur fond de lutte dans un hôpital auquel elle ajoute un triangle familial redoutable, une mère, une fille adolescente et un père sur le retour. mais aussi vous pouvez plonger sur son petit dernier, Nos Armes, un western contemporain avec deux adolescentes, étudiantes idéalistes, qui décident de commettre un braquage, ce qui n'est pas, je vous le dis d'emblée, une bonne idée. Et ce, d'autant plus que le braquage va mal tourner et que les étudiantes vont alors le payer cash. Mais revenons à « Sans foi ni loi », dont le titre, à lui seul, évoque le Grand Ouest sauvage qui n'a pas accueilli son juge de paix qui aurait traversé le fameux Pecos. Le roman débute à 100 à l'heure, à galop de cheval, car Hab Stenson débarque soudainement dans la vie du jeune Garrett. Pourchassé par un marshal et ses adjoints, après avoir elle aussi braqué une banque, elle le prend en otage et fuit en direction de Pearl Valley dans l'état du Wyoming. Et oui, Hab Stenson, c'est une hors-la-loi, une Calamity Jane, pas calamiteuse pour $2. Commence alors une suite de péripéties au sein d'une épopée western légendaire qui ne peut que finir mal. Sans foi ni loi prouve si besoin était le talent de conteuse de Marion Brunet. Certes, elle enfile les clichés du western comme des perles sur un fil, mais le rendu est prenant. Le collier est admirable. Tout se lit chapitre après chapitre qui sont autant d'étapes initiatiques. L'ours, l'affranchi noir, le bain dans une chambre de saloon, l'alcool, les jeux de cartes, la dent arrachée, les bagarres, une fusillade dantesque, l'apprentissage du tir, la découverte du sexe, de l'autre, de l'enfant, de soi, un roman entier, quoi. On pourrait dire qu'il ne manque que les Indiens, et pourtant ils sont là, par l'intermédiaire d'un ami métis à la vie et à la mort. Pour le reste, il y a des méchants bien méchants. Le pire étant ce bougre de Jefferson, un tripot avec une prostituée danseuse forte, Jenny, tenue par un propriétaire fidèle en amitié, Carson, une enfant orpheline de père et délaissée par sa mère, qui pourtant l'aime, Pearl, deux amis terribles, Sean et Will, et aussi toute une galerie de personnages que l'on quitte et que l'on retrouve avec plaisir ou dépit, selon qu'ils entrent ou sortent de l'histoire. Et puis, il y a une fin digne d'un western, un duel pour récupérer des éperons en or, scène qui se dédouble avec un épilogue mélancolique. Sans foi ni loi est un roman qui se veut une ode à la liberté et à l'émancipation, avec en filigrane la place de l'enfant et de la femme, ainsi que les amours contrariés. Le tout avec le cliché des clichés, le narrateur qui relate bien après sa rencontre avec une héroïne, figure admirée et détestée à la fois. Il faut dire que sa principale faute à Hab Stenson n'aura pas été de braquer une banque, voire de tuer des hommes, mais bien d'avoir voulu dans un monde d'hommes se fondre dans la masse en portant des vêtements d'hommes. Elle et Garrett étaient faits pour se rencontrer tant ils sont dissociables et similaires. La première, orpheline à New York, a été traînée de force dans l'intérieur des terres pour les peupler. Le second, fils de pasteur, a été élevé à la dure, la très dure. D'ailleurs, il garde les stigmates des forceps et des brutalités de son père. Tous deux, adultes très, voire trop tôt, s'apprivoisent, se respectent. Et c'est bien Garrett qui sera son récipiendaire testamentaire à elle. Marion Brunet a écrit un joli roman western qui se lit à tout âge, je l'ai dit, à partir de 13 ans et donc après. Mais il reste une inconnue à celui qui laissera une trace légendaire dans le Grand Ouest. Pourquoi diable ce nom de Garrett ? On pense évidemment à Pat Garrett, un homme qui est entré à jamais dans les livres d'histoire, comme cette bougresse d'Hab Stenson sous la plume diaboliquement évocatrice de Marion Brunet.
Merci Julien pour cette incursion dans la littérature jeunesse. Décidément, tu me surprendras à chaque fois. Merci à toutes et à tous pour votre participation et un spécial big up pour Anne Prono, la présidente de la bibliothèque La Passerelle, des mots qui a permis de m'accueillir. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 8 mai à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et maintenant...
500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.